get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight.
Bienvenue dans un livre, un film. Le livre, c'est La ferme africaine de Karen Blixen et le film, c'est Out of Africa de Sidney Pollack, naturellement avec Robert Redford et Meryl Streep. J'ai possédé une ferme en Afrique au pied d'une ganga. La ligne de l'équateur passait par les montagnes à 25 000 au nord, mais ma ferme se trouvait à 2000 mètres d'altitude. En milieu de journée, on avait la sensation d'être tout près du soleil. Cependant, les après-midi et les soirées étaient claires et fraîches, et les nuits froides. Voilà le début du récit que Karen Blixen fait quelques années après de son long séjour en Afrique, où elle a effectivement possédé une ferme. Dans le livre que j'ai relu dernièrement, très dernièrement, elle dit qu'elle a passé 12 ans en Afrique. J'ai vu d'autres chiffres, une durée plus importante, 1913-1931, j'ai vu donc ce chiffre-là. Ailleurs, qui faut-il croire? Je pense qu'il vaut mieux croire Karen Blixen elle-même. Donc on va tabler sur 12 ans passés en Afrique, dans une ferme où elle devait, on l'entendra, produire du lait, et où finalement, sur les conseils appuyés de son mari, elle cultivera le café. Le café du Kenya, appelé évidemment à quelques célébrités, mais bien plus tard, puisque elle s'installe juste avant la Première Guerre mondiale, donc après, peu après 1910. Ce récit donc de Karen Blixen est disponible pour le public français depuis 1942, c'est donc pas d'hier naturellement, mais ce public français n'a pas eu de veine dans la mesure où il n'a eu accès qu'à une traduction en français de la version américaine du livre, version elle-même passablement tronquée, coupée, afin de prendre des dimensions soi-disant plus accessibles au public américain. Donc nous avons eu cette espèce d'horreur entre les mains jusqu'à pas longtemps, jusqu'à 2005 si je ne m'abuse, où effectivement un nouveau traducteur s'est collé à la traduction de ce livre. Il faut que je cherche le nom de ce traducteur, il s'agit d'Alain Knedig, qui a traduit ce livre évidemment directement du danois, langue dans laquelle Karen Blixen écrivait. Une traduction magnifique, un style énorme, qui nous permet d'accéder à la valeur littéraire de Karen Blixen. Valeur littéraire que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rencontrer quand vous avez assisté au cinéma au Festin de Babette. Le Festin de Babette, un film de Gabriel Axel sorti en 1987 avec Stéphane Audran, était la mise à l'écran d'une nouvelle, une nouvelle de Karen Blixen, du même titre, Le Festin de Babette. C'est une histoire assez merveilleuse, c'est l'histoire d'une grande cuisinière parisienne, du café parisien, qui est obligée de fuir Paris lors de la répression de la Commune en 1870, de fuir Paris, de se rendre dans une île perdue du Danemark où elle va trouver refuge chez deux sœurs qui sont des protestantes rigoristes auxquelles elle va servir de servante en quelque sorte, jusqu'à ce que, gagnant à une loterie, elle gagne suffisamment d'argent pour préparer un gigantesque festin qu'elle savait évidemment faire, ayant été grande cuisinière d'un grand restaurant parisien. Elle donne ce festin à l'occasion d'une rencontre que font les sœurs avec des sommités de la région, sommités parmi lesquels se trouve un officier qui est seul capable de reconnaître la qualité du festin. Vous voyez donc, je vous passe les détails, les qualités de conteuse de Karen Dixon, cette façon de mettre en place personnage, lieu pour capter l'attention, cette faculté de conteuse, eh bien, Karen Dixon l'importe d'une certaine manière dans son récit de son séjour long. En Afrique. Elle est capable dans ce livre de mettre en scène naturellement la nature qui l'entoure, de mettre en scène des personnages hauts en couleur qu'elle décrit avec beaucoup de patience, de longueur, mais sans jamais ennuyer, sans jamais lasser. Elle va nous décrire évidemment elle-même. Elle va se mettre en scène elle-même. Elle est d'ailleurs capable d'écrire son propre conte, n'est-ce pas ? Elle a épousé un noble pour être soi-même comtesse, comme si elle voulait devenir le personnage d'un des contes dont elle avait le secret. Et elle nous parle de son prince charmant, Lord Finch Hatton, incarné, vous verrez, au cinéma par Robert Redford, tandis qu'elle-même prendra chair avec Meryl Streep. Donc le personnage de Lord Finch Hatton, un lord anglais qui a décidé de s'offrir une vie un petit peu d'anarchiste en Afrique, en organisant des safaris, en montant un petit commerce, en passant un brevet de pilote pour être un des premiers pilotes africains, enfin, en Afrique. Elle va aussi nous décrire son gouverneur, son gouvernant de sa maison africaine. Il s'agit naturellement de Farah Aden, un personnage haut en couleur dans un Somalie, haut en couleur dans le livre et également dans le film, un musulman qui a une classe folle et qui assure un service de très haute tenue au beau milieu du Kenya. Mais elle va nous décrire aussi Kamante, un jeune enfant multi-blessé, dont les plaies suppurent, etc. Et comme Karen Dixon en Afrique s'improvise médecin, elle s'occupe de lui, elle échoue, elle le confie à une mission écossaise où on va enfin réussir à le soigner, quasiment effectivement à le guérir, et elle le prendra comme cuisinier. Et on retrouve donc le goût de Karen Dixon et de son personnage pour la cuisine. Kamante, qui est initié comme ça, in extremis la musique est importante dans le film, mais là, c'est la cuisine. Et donc, il va se révéler être une sorte de chef inné, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il voit une fois un truc infernal de la cuisine française pour ensuite le maîtriser, le décliner à la mode africaine. C'est un pur génie de la cuisine et qui allie à son génie de la cuisine un profond mépris pour cette cuisine qu'il trouve beaucoup trop sophistiquée, ridiculement inutile, mais qu'il maîtrise toutefois parfaitement. Ce sera donc le cuisinier de Karen Dixon, qui aura à une ou deux reprises l'occasion de recevoir à sa table rien moins que le prince de Galles. Comme chacun sait, le prince de Galles est le futur héritier du trône d'Angleterre. Tout de même, il est à sa table et il apprécie évidemment le repas. J'imagine qu'il a été un petit peu surpris au fin fond du Kenya, bien plus loin que Nairobi, de manger comme il a mangé grâce à Kamante et à sa maîtresse. Donc Karen Dixon, évidemment, vous l'avez compris, bien surpris. Et bon, il a fait des compliments sur cette cuisine. Et c'est la seule fois que Kamante s'est montré intéressé par ce qu'on pensait de sa cuisine. Et il a demandé effectivement à sa maîtresse Karen Dixon comment le sultan avait trouvé sa cuisine et comme il l'avait trouvée bonne. Pour une fois, Kamante s'est montré un petit peu honoré de son propre talent, quoi, en quelque sorte. Donc des personnages, mais le récit de Karen Blixen va beaucoup plus loin que ça, au-delà des paysages et des personnages, de l'action de ces personnages, la chasse en particulier, ça, qui occupe une place tout à fait centrale dans les récits de Karen Blixen. Il y a des analyses qui relèvent, je dirais, quasiment de la science politique et des relations internationales. Au cœur de cette colonie anglaise du Kenya, elle a un poste d'observatrice évidemment éminent. En plus, avec sa neutralité de Danoise, on lui demande, en cas de guerre entre la France et l'Allemagne, l'Angleterre, la France d'un côté, les États-Unis d'un côté et l'Allemagne de l'autre, de quel côté se tiendra votre Danemark chéri? Elle répond avec beaucoup d'humour sur son quant à soi, j'espère. Et c'est effectivement ce qu'a fait le Danemark. On voit donc qu'elle a un poste d'observation assez intéressant qui lui permet aussi d'observer les différents migrants qui se trouvent au Kenya, en particulier la communauté indienne, la communauté musulmane et évidemment les nombreuses communautés européennes qui rivalisent de ridicule pour reproduire l'Europe au fin fond de l'Afrique. Mais enfin, elle n'est pas toujours sévère, Karen Blixen, à l'égard de ces Européens. Elle a parfois un petit peu de sympathie pour ces héros du quotidien qui supportent les moustiques, la chaleur, etc., par finalement peut-être quelque chose qui ressemblerait à l'amour de l'Afrique. Elle décrit évidemment aussi les Kikuyu, les natifs du Kenya. Elle emploie des mots qui nous choquent aujourd'hui. Elle parle de nègres en particulier, ça nous choque. Il faut quand même pas perdre de vue qu'à l'époque ce n'était pas du tout péjoratif. Quand Blaise Cendrars, au moment de un petit peu après la Première Guerre mondiale, quand Blaise Cendrars publie les contes nègres, c'est-à-dire une espèce d'anthologie des contes qu'il a été récupéré à droite à gauche, quand il parle d'une anthologie des contes nègres, il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans. Blaise Cendrars sera amateur de la musique du Brésil en particulier, joué très souvent par des nègres, comme chacun sait, la bossa nova, son âme est noire. Et donc pas de colonialisme abusif dans l'esprit de Karen Blixen, même si naturellement elle est au cœur de la culture européenne, en particulier du point de vue de la musique, avec Lord Finchatton qui s'est acheté un des premiers phonographes. Elle écoute évidemment la musique européenne. Sérénade de Schubert avec ce qu'il faut de nostalgie pour évoquer Karen Blixen, la ferme africaine, et donc le film de Sidney Pollack, Out of Africa, un film qui fait partie des rares films dont je suis incapable de vous dire combien de fois je l'ai vu, ce qui nous met largement au-delà de 2 douzaines de fois. C'est un très grand film dans tous les sens du terme. Son format, donc, c'est 1.85 sur 1, c'est-à-dire un écran très très large pour profiter des paysages de l'Afrique, mais pour profiter également des dialogues en duo assez serré, où on voit très bien les expressions des visages de Meryl Streep et de Robert Redford. En particulier, je vous l'ai dit, c'est un conte de fées, mais les amours, les histoires d'amour, chacun sait, finissent mal. J'en dis pas plus, je vais pas divulgâcher, mais enfin disons, sachez que c'est un film blindé de réalisme. Voilà, c'est du 35 mm, la pellicule, donc un format aussi classique, l'image c'est du Technicolor, et puis le son c'est du 5.1, c'est-à-dire il y a 6 canaux, ça permet, j'imagine, je connais pas grand-chose, hein, je fais mon malin là, mais enfin je pense que ça explique en particulier la somptuosité de la bande-son de ce film, avec en particulier de beaux passages de musique classique, des sons africains très très importants, naturellement, percussions en particulier, et la musique originale évidemment, écrite par John Barry, et qui est absolument magnifique, et qui est d'ailleurs sorti très très rapidement en CD après la sortie du film, que j'ai vu moi à sa sortie alors que je faisais le début de mes études à Nancy, voilà, qui intéressera certainement tout le monde. Alors le film, eh bien écoutez, peut-être qu'on va s'en donner un petit aperçu grâce à Sylvain qui réalise tout ça.
Bonjour.
Auriez-vous quelques déboires?
De temps à autre. Et vous?
Non, je fais le voyage de Nairobi.
Vous êtes dans le bon train, alors?
Oh, voulez-vous bien vous sauver? Oust! Oust!
Oust?
Il y a là tout mon cristal, mon Limoges.
Ah, vous ne saviez pas que c'était du Limoges. Tokeni Hapa. Vous comptez donc vous installer?
Oui, je suis venue épouser le baron Blixen. Vous connaissez?
Oh, oui.
Nous avons pour projet de construire une laiterie. Êtes-vous célèbre à ce point qu'on ait stoppé le train pour vous?
Très discourtois de ne rien faire par ici. Une laiterie? Il est un peu tôt pour que passe le laitier.
Vous ne montez pas dans le train?
Non, je vais plus loin.
Loin? Jusqu'où?
Parler de l'ivoire à Barclay Cole. Roar le connaît.
Je suis la baronne Blixen.
Pas encore. Finch Hatton, Donny.
Sabu, je suis Farah Aden. On peut partir maintenant.
Où est le baron Blixen?
Il est à Mutaiga. Venez, je vous prie. Dereva, Kujahapa.
Où est-ce, Mutaiga?
Mutaiga est un club Sabu où les Anglais vont pour boire. Je vous prie. Mpaka Mutaiga Club. Andelea.
Écoute, dans le train, il y a mes caisses de porcelaine et de cristal. Porcelaine, tu connais?
Oui, Sabu. Porcelaine, ça se brise.
Voilà, porcelaine, ça se brise. Vous avez pu faire connaissance donc avec Farah Aden, le sublime gouvernant de la maison de Karen Blixen en Afrique, sublime maison également. Un film donc de 1985, je le sais, j'étais à Nancy durant l'année scolaire 1985-1986, ce qui me faisait un peu hésiter sur la date. Un film donc de Sidney Pollack sorti en 1985, qui est donc en 1985 l'adaptation à l'écran, au cinéma, de La ferme africaine de Karen Blixen, paru, lui, en 1937. Ce film est une adaptation excellente à mon goût, non pas par sa fidélité au livre, mais au contraire par la manière tout à fait extraordinaire dont ce film trahit le livre. Il le trahit en transformant un récit qui est sensible, qui est savant aussi également, il le transforme en un film grand public, tout à fait regardable de 7 à 77 ans et par les temps qui courent bien au-delà de 77 ans, Dieu merci. Un film donc, je l'ai dit, techniquement extraordinaire, les paysages naturellement, les personnages et donc les acteurs. Je pense que Meryl Streep et Robert Redford sont tous les deux dans peut-être pas leur meilleur rôle, faut quand même pas pousser. Ils ont joué d'autres choses, mais ils sont tout à fait excellents. Ça me permet donc de dire cette chose étrange que l'adaptation doit une grande part de sa valeur au fait qu'elle trahit habilement le film. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un procédé artistique de la Renaissance et au-delà de l'âge baroque qu'on appelle les anamorphoses. Imaginez que vous avancez dans un couloir, au fond vous voyez un motif que vous avez du mal à identifier, vous arrivez donc à ce fond de couloir, vous prenez à droite, vous vous retournez et là, il se trouve que vous avez le bon angle pour voir autrement le motif que vous ne compreniez pas en arrivant dans le couloir. C'est ce qu'on appelle une anamorphose, c'est-à-dire que le dessin change en fonction du point de vue qu'on adopte. Eh bien, je crois que dans son récit, Karen Blixen produit ce genre d'anamorphose. Je pense que Sidney Pollack, en faisant son film, a procédé à d'autres anamorphoses déformées pour mieux voir. J'espère que cette émission vous aura donné envie de lire le livre. Je ne saurais trop vous le conseiller. Et de voir le film qui se trouve chez tous les bons marchands de DVD. Ciao, ciao. Merci à Landy Unger qui a choisi la musique. Et merci surtout à Sylvain qui réalise tout ça.
We get it almost every night.